Bonjour et bienvenue. Comme tous les vendredis, des chercheurs et acteurs de la culture scientifique d'horizons divers se retrouvent dans le club des têtes au carré. Au menu des discussions aujourd'hui, des fossiles microscopiques, une faune sauvage discrète mais de plus en plus présente dans la capitale, des questions sur la musique que se posent les enfants. Et puis nous avons encore beaucoup à apprendre sur les anneaux de Saturne et c'est votre sujet de une aujourd'hui. Bonjour Axel Villard.
Bonjour, et ça tombe bien parce que la sonde européenne Cassini entame la dernière phase de sa mission autour de Saturne. Elle va nous renseigner sur la vie intime de cette fine dentelle planétaire. On plonge la tête la première dans les anneaux dans un instant avec la planétologue Cécile Ferrari.
Et pour réagir, il y a Twitter via le hashtag l'attaque. Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Marion Lelay, préparé par Chantal Lemontagnier et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, Patrick De Wever et Frédéric Fouja et Nicolas Lafitte. Bonjour.
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 Alors vous, Patrick De Wever, vous êtes géologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et vous venez de publier un beau livre intitulé « Merveilleux microfossiles » chez Biotope Éditions. Vous vouez une véritable passion pour ces fossiles microscopiques qui ressemblent à de véritables fleurs de pierre. Le terme est dans votre livre. Pourquoi un tel intérêt ?
J'ai passé ma vie à étudier des microfossiles, un groupe de microfossiles qu'on appelle les radiolaires. C'était extrêmement beau. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai une bonne bouteille de vin, moi je ne peux pas la boire seule, il faut que je la partage. Et donc je ne pouvais pas partager ça, et donc je me suis toujours dit, quand je serai grand, j'essaierai de montrer aux autres combien ces fossiles sont jolis. Mmh. Et puis voilà, maintenant je ne suis pas grand, mais je suis vieux, et donc voilà, j'ai réussi à faire ce livre.
Oui, c'est vrai qu'ils sont superbes ces microfossiles. On en trouve à Paris hein, d'ailleurs, vous dites que la capitale a été construite sur des monceaux de microfossiles.
Avec des morceaux de microfossiles. En fait, toutes les roches calcaires sont faites à partir de la vie. Mmh. Microfossiles ou pas microfossiles, mais tous les calcaires, donc Paris étant essentiellement fait en calcaire, c'est essentiellement fait avec la vie.
Mmh. Et on trouve aussi de plus en plus d'animaux sauvages à Paris. Frédéric Fouja, vous avez décidé d'y consacrer un film, La plus belle ville du monde, qui sera diffusé le 1er janvier prochain sur M6 à 21h. Alors, des renards au Père-Lachaise, des castors dans le canal Saint-Martin, des faucons pèlerins tout en haut de la tour Eiffel, c'est le grand retour de la faune sauvage dans la capitale.
Oui, et ils sont nombreux à revenir, surtout depuis 2006, depuis l'interdiction des produits phytosanitaires et des pesticides en particulier, qui ont fait revenir les insectes. Quand les insectes reviennent, les oiseaux qui adorent les insectes viennent aussi, et quelques mammifères qui aiment bien les oiseaux les suivent. Donc c'est un cercle vertueux qui a commencé il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup d'espèces qui reviennent et maintenant on est d'accord pour les accueillir d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que ça fait du bien de les savoir avec nous. Et puis en fin d'émission, nous parlerons musique avec Nicolas Lafitte qui publie Musique pas bête chez Bayard Jeunesse, un livre qui répond de façon très simple et très ludique aux questions que se posent les plus jeunes sur le son, les instruments, la musique et son histoire. Et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Presque 400 ans après leur découverte, nous ne les connaissons encore pas si bien que ça. Les anneaux de Saturne sont à la une de la science aujourd'hui.
Galilée, 1609, il voit deux machins autour de Saturne. Cassini, en 1676, comprend qu'il y a une division. Laplace nous explique que l'objet, s'il était solide ou liquide, ne serait pas stable. Et Henri Poincaré nous explique que les collisions jouent un rôle, mais qu'on ne sait pas les étudier. Alors, pour moi, ces anneaux, c'est un peu un parfum de femme. C'est-à-dire que c'est un objet dont la masse est très faible, mais la quantité d'informations, fort importante.
Un rapide historique des anneaux de Saturne dans la voix d'un astrophysicien qui nous manque, l'astrophysicien André Brahic, disparu cette année. La sonde spatiale Cassini de l'ESA, partie en octobre 1997, a entamé la dernière phase de sa mission autour de Saturne. Une étape périlleuse et importante, car elle va nous emmener pendant un an sur les anneaux et les pôles de cette géante de gaz. Bonjour Cécile Ferrari.
Bonjour.
Vous êtes planétologue dans l'unité astrophysique, instrumentation et modélisation à l'université Paris-Saclay, professeur à la faculté Paris Diderot. Quel va être le programme de la sonde Cassini dans cette dernière année de mission ?
L'enjeu, ça va être de passer au plus proche des anneaux, avec comme objectif principal de mesurer la masse des anneaux de Saturne, qu'on ne connaît toujours pas, malgré 13 ans de mission. On va entamer 40 orbites, donc, qui ont duré une semaine chacune, et elles ont démarré le jour de l'anniversaire d'André, le 30 novembre.
Ouais, André Braik qui a été votre professeur, votre mentor.
Mon mentor, oui.
Axel ?
Cécile Ferrari, quand vous dites passer au plus près, en termes de kilomètres, ça veut dire quoi ?
Le bord des anneaux principaux de Saturne est à 140 000 km du centre de la planète, donc la sonde va passer là, pendant 20 orbites à 150 000 km. De la planète, donc va frôler le bord des anneaux dans une première phase. Et dans une deuxième phase, elle va raser la planète, c'est-à-dire qu'elle va passer juste au-dessus des nuages de Saturne à 60 000 km du centre. En fait.
À part la masse totale dont vous avez parlé, qu'est-ce qu'on ignore encore des anneaux de Saturne ?
Bon, on ignore leur structure intime. En fait, on n'a jamais vu une particule des anneaux de Saturne et d'ailleurs, on n'en verra jamais, hélas. Mais on va s'en rapprocher, puis on va pouvoir regarder quand même des tas de petits phénomènes qui se passent à petite échelle, comme l'agglomération de particules, justement, dont parlait André. On sait que ça se cogne, mais on sait que ça se colle aussi. Et donc, tous ces processus d'agglomération dans des disques nous aident à mieux comprendre la formation des systèmes planétaires.
Mais pour essayer de se les représenter, ces anneaux, faisons un peu comme une sorte d'expérience de pensée. Si on était à bord d'un petit vaisseau et qu'on traversait ces anneaux, qu'est-ce qu'on verrait ? Est-ce qu'ils sont suffisamment denses ? Est-ce qu'on aurait l'impression, comme quand on est dans un avion et qu'on traverse les nuages, qu'est-ce qu'on verrait ?
Dans les anneaux de Saturne, il y a de tout, hein, c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a des anneaux épais, des anneaux fins, des anneaux qui sont... Donc il y a un anneau B qui est le gros anneau central qui est très très dense, donc la lumière ne passe pas à travers. Et par contre, on a l'anneau C qui est près de la planète, lui qui est un anneau fin... On peut quand même traverser avec danger, mais qui est quand même très très fun. Donc il y a un peu de tout. Il y a aussi un peu plus loin des anneaux très peu denses, qui sont des nuages de poussière très fines. Mmh. Voilà. Alors que dans l'anneau B, on a des gros blocs de quelques mètres, dizaines de mètres, qu'on imagine plus ou moins sphériques. Mais on voit des photos d'artistes, enfin des vues d'artistes de boules cotonneuses. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais voilà.
Ouais, en fait, on a du mal à se les imaginer, oui, à se les représenter vraiment.
Hein, et donc il va nous falloir une autre mission.
Sur certaines images de la sonde Cassini précédemment dévoilées, on voit comme des vagues à la surface de ces anneaux qui ne sont pas complètement plats. Qu'est-ce qui crée ces perturbations ?
Alors dans les anneaux, on a quand même des petits satellites en fait qui se sont agglomérés et qui créent des ondes en fait dans le disque alentour. Et donc qui agite les particules qui les croisent en fait. Et on a des vagues, donc des ondes, un peu comme un siège d'un bateau.
Comme un vinyle en fait. Il y aurait peut-être une musique dans les anneaux de Saturne alors.
C'est vrai que moi on a beaucoup de structures dans les anneaux de Saturne qui font penser au sillon d'un disque. Et d'ailleurs la plupart ne sont pas expliquées.
Comment on va faire la sonde pour mesurer la masse totale des anneaux ?
Alors on va la mesurer grâce à la perturbation qu'ils vont induire sur la trajectoire de la sonde. En fait, toute masse va induire par la force de gravitation une perturbation sur la trajectoire. Et donc en passant au plus près, on a espoir d'avoir une mesure de la masse minimale en fait, des anneaux de Saturne. Et on va détecter ces changements de trajectoire grâce au faisceau radio de la sonde en fait.
Il n'y a pas des risques en passant très près des anneaux de toucher un des blocs dont vous parliez tout à l'heure ?
Là où on va passer, on espère qu'il n'y a pas de gros blocs. Par contre, il y a beaucoup de poussière fine et évidemment, des poussières d'un micron à 76 000 km/h, ça fait mal dans les optiques des instruments. Mais la sonde se met en position de sécurité à chaque fois qu'on passe dans le plan, c'est-à-dire que tout le monde se cache derrière la grande antenne qui fait 3 mètres. Et donc, au moment où on traverse, on arrête de regarder, on passe et puis après, on recommence les observations.
Ça veut dire pas de photos à ce moment-là ?
Eh non !
Dommage.
C'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui nous manquent pour protéger les instruments.
Il y a quand même des ingénieurs qui veillent.
Alors bon, là, on l'a dit, hein, c'est la dernière année pour cette sonde. Et elle a des chances d'être prolongée ou a priori
Non, c'est son dernier, c'est le grand final, comme nos amis américains l'appellent. Donc ça fait 13 ans qu'elle est en orbite autour de Saturne. C'est quand même une mission tout à fait extraordinaire.
Ça va vous manquer.
On avait fini par
s'attacher.
Par s'attacher, oui.
Est-ce qu'on a envoyé de nouvelles sondes ? Est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce que la relève est assurée en quelque sorte ?
Pour les Européens et les Américains pour les missions vers les planètes géantes, ça sera la mission JUICE qui est à l'horizon 2025-2030. Donc c'est loin, je serai déjà à la retraite, je pense.
Oui, on n'est pas prêt d'avoir des nouvelles de Saturne après que Cassini
et sur Saturne, ait fini sa mission. Sur Saturne, il y a des projets, mais les budgets sont ce qu'ils sont. Et donc les missions amirales du type de Cassini, on n'en aura pas pendant les 20 prochaines années, je pense.
Merci Cécile Ferrari pour ces nouvelles fraîches de Saturne et de cette mission Cassini. Merci Axel et à bientôt.
Daniel, à très bientôt, après les vacances.
Après les vacances. Bonnes vacances à vous et joyeux Noël.
Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, quand les sauterelles prenaient l'aspect de feuilles, il y a 270 millions d'années, une équipe d'entomologistes et de paléontologues français vient de dévoiler le plus ancien cas de mimétisme chez les insectes connus à ce jour. Le fossile qui a permis cette découverte, une aile de sauterelle datant du Permien, porte exactement les mêmes caractéristiques de forme et de nervation que les sauterelles feuilles actuelles. Une espèce de sauterelle aux ailes vertes, connue dans le sud de la France. Cette découverte montre que les interactions actuelles entre prédateurs et proies et les techniques de survie comme le camouflage sont très anciennes et moteurs de la biodiversité depuis plusieurs millions d'années. Dater précisément la mort de quelqu'un grâce aux bactéries et aux champignons. Les médecins légistes ne disposent aujourd'hui que de très peu de moyens pour définir avec précision le jour d'un décès quand un cadavre est retrouvé dans un état de décomposition avancée. Une équipe de chercheurs new-yorkais propose d'utiliser le nécrobiome, ces bactéries et ces champignons qui se développent dans un corps en décomposition. En analysant l'ADN, ces micro-organismes récoltés dans l'oreille et le nez des cadavres, ils montrent que le microbiome permet de dater la mort avec une précision allant jusqu'à 2 jours. Et pour terminer sur une note un petit peu plus joyeuse, c'est bref, à l'approche du réveillon, nous vous proposons d'écouter un chant de Noël un peu particulier. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Alors la qualité laisse peut-être un peu à désirer, mais vous allez comprendre pourquoi la voix du chanteur américain Andy Williams que vous entendez derrière moi a été captée par le plus petit récepteur radio du monde, une cavité artificielle mesurant seulement 2 atomes de large, creusée dans un cristal de diamant rose. Ce système imaginé par des ingénieurs de Harvard, en plus d'être infiniment petit, est quasiment incassable. Cette miniaturisation à l'extrême qui utilise une simple diode comme amplificateur pourra peut-être un jour servir de moyen de communication dans l'espace. C'est en tout cas ce que pensent les inventeurs. Dans un instant, on part à la découverte de minuscules chefs-d'œuvre de la nature, les microfossiles, dans la tête au carré sur France Inter. Stop, but you need to go wrong. The Last Shadow Puppets Aviation sur France Inter.
La tête au carré. Le club sur France Inter.
Le club des têtes au carré en compagnie du réalisateur Frédéric Foujat et du géologue Patrick De Wever qui vient de publier Merveilleux microfossiles, bâtisseurs, chronomètres et architectes chez Biotope Éditions. Alors cela fait plusieurs décennies, Patrick De Wever, que vous vous intéressez à ces microfossiles. Vous êtes allé les chercher très loin. Jusqu'où vous êtes allé pour trouver ces fossiles microscopiques ?
Un peu partout dans le monde. Le géologue là va là où les cailloux qui l'intéressent affleurent, ouais. C'est-à-dire se trouvent en surface. Et même quand c'est pas en surface, il faut faire des trous dans la mer. Mais on va dans la mer et on fait des trous pour aller chercher les niveaux qui nous intéressent, pour trouver les organismes qui nous intéressent.
Ouais, vous êtes descendu à 5600 mètres de profondeur dans les océans, je crois, c'était
voilà, au large du Pérou, dans la fosse, on est descendu là. Et là, mais on n'y allait pas que pour mes fossiles, hein. C'est une expédition, donc chacun essaie de trouver son intérêt dans le cadre d'un intérêt global. Parce que là, on essayait de comprendre des effondrements de falaises avec des problèmes de tsunami, etc.
Et puis à plus de 5000 mètres dans l'Himalaya, également, on trouve de ces microfossiles qui vous intéressent.
Oui, parce que l'Himalaya, c'est comme les Alpes, ce que l'on trouve maintenant très haut en montagne. En fait, c'est des roches qui se sont déposées dans les océans. Et elles-mêmes, les roches, elles se sont déposées vers 3000, 4000 mètres. Et puis quand les plaques se rencontrent, ces roches sortent de l'océan, montent. Et au sommet des Alpes aussi, on en trouve des roches qui contiennent ce type de fossiles.
Ben oui, parce qu'avant d'être des microfossiles, ils ont été des organismes vivants comme on peut encore aujourd'hui en observer dans les océans.
Dans le zooplancton, il existe beaucoup d'autres espèces animales, parmi lesquelles les protozoaires, c'est-à-dire les animaux constitués d'une seule et unique cellule. Ces animaux, bien que de taille microscopique, nous révèlent souvent une architecture d'une grande élégance. Certains radiolaires sont épineux, comme des oursins. Les acanthères, eux, rayonnent comme des petits soleils. Les spicules sont disposés selon une géométrie parfaite. Les tintinides vivent au fond de petites coupes finement ciselées. Cette surprenante colonie pulse sans relâche.
Patrick De Wever, hein, ces petits organismes, c'est vrai que c'est de la dentelle, hein, ce sont des fleurs de pierre, les photos de votre ouvrage sont superbes. Il faut être à quelle échelle pour voir tous ces détails qui nous sont décrits là dans l'extrait de ce documentaire ?
La moyenne c'est 0,1 mm.
Ouais, c'est tout petit.
Un dixième de millimètre, oui. Les grands font 0,2. Mais les petits font un centième ou un millième de millimètre.
Alors, on les trouve parfois en quantité abondante. Il existe, on peut se promener sur une plage, par exemple, croire qu'on a affaire à des bêtes grains de sable. Et en fait, chaque grain est un de ces microfossiles. Vous avez marché sur des plages de ce type, je crois.
Alors, il y a certains types de microfossiles sont effectivement de la taille d'un grain de sable, mais il y en a beaucoup plus qui sont beaucoup, beaucoup plus petits qu'un grain de sable. Ouais. Et quand vous allez prendre un bain, si vous buvez une tasse, vous avalez des centaines de ces micro-organismes. Et ça vous gratouille pas toujours parce que c'est tellement petit, on ne le sent pas. Ouais. Mais en fait, il y a aussi, ces organismes sont tout petits, mais il y a d'autres organismes qui sont tout petits aussi, mais pas si tout petits. Et donc, ils mangent les premiers. Et quand on mange quelque chose, c'est pour en tirer la matière nutritive. Donc, alors ce sont des petits organismes, une espèce de petits crustacés qu'on appelle des copépodes. Ils mangent les autres, ils digèrent la matière organique, mais la matière minérale, ils la rejettent dans leurs déchets, dans les petites crottes qu'on appelle des pelotes fécales. Et ces petites crottes s'accumulent. C'est tout petit, mais c'est tellement abondant que ces petites pelotes fécales représentent l'essentiel du sédiment. Et par exemple, quand on voit les falaises de la craie, toute la côte normande...
Les falaises d'Étretat, vous le dites dans votre livre, en fait, c'est une accumulation de lisiers. Alors.
Voilà, c'est un lisier. En d'autres termes, on pourrait dire, pour être un peu plus grossier, c'est un vrai tas de merde,
oui,
au sens propre du terme.
Je ne suis pas sûr qu'à Étretat, on vous confie la rédaction des brochures pour l'Office du tourisme. Hein. C'est vrai qu'on n'imagine pas que c'est ainsi que se sont créées ces falaises. Et alors, quel intérêt ça a, plus précisément, ces microfossiles, pour le géologue, le chercheur que vous êtes ?
Alors d'abord, on ne trouve pas tous les types de microfossiles dans tous les environnements. Comme on ne trouve pas des chênes ou des lièvres dans tous les environnements. Donc pour les micro-organismes, c'est la même chose. Donc un ensemble de microfossiles indique un environnement. Bref, ça permet de reconstituer les anciens environnements, les paléo-environnements, d'une part. D'autre part, au cours du temps, on ne trouve pas les mêmes organismes. Donc quand on repère un organisme qui a vécu à une certaine époque, on peut dire on est dans telle époque. Donc ça permet de dater les cailloux. Et ensuite, on peut regarder aussi quel est le type de constituant qui donne quel type de roche. Donc, en fonction de cela, on reconstitue l'environnement global, même la température de l'eau, la composition de l'eau, parce que en fonction de cette composition et de cette température, sont des réactions physico-chimiques. Et donc, ils enregistrent ces anciennes données.
Ouais. Ce sont vraiment les archives de la planète et de ce qui s'est passé sur la planète depuis le début un peu de l'apparition
mémoire,
de la vie.
C'est la mémoire de la Terre, c'est la mémoire de l'histoire de la Terre.
D'où ce sous-titre, bâtisseur, chronomètre et architecte. Hein, c'est votre livre. Vous dites en fait que ces microfossiles, ce sont tout ça à la fois.
Oui. Alors, architecte pour de doubles raisons. D'abord, quand on les regarde, on voit qu'il y a une architecture tout à fait merveilleuse. Parce que leur problème, ces petits organismes, c'est d'essayer, par exemple ceux qui sont en silice. Ils doivent prendre de la silice de l'eau de mer. Or, l'eau de mer est sous-saturée en silice. Donc, pour prélever cette silice, ils doivent dépenser une énergie énorme. Donc, s'ils dépensent moins d'énergie, pour avoir moins ce besoin de silice moindre, ben, ils ont plus de chances de survivre. Donc, avec le temps, ben, ceux qui ont trouvé le moyen de dépenser moins d'énergie survivent plus facilement, d'une part, d'autre part, mais il faut quand même pas qu'ils soient trop fragiles. Bref, avec le temps, c'est de dégager tout doucement une forme économe en matière, mais néanmoins résistante. Et en plus, c'est beau. Et c'est pour ça que ça intéresse les architectes. Ouais. Et j'étais un moment en contact avec une école d'architecture où ils disaient justement, c'est économe, c'est solide, mais en plus, par rapport à un cube en béton, c'est quand même infiniment plus joli.
Et oui. Et là, on en arrive à une partie qui est abordée dans votre livre. C'est l'inspiration de certains artistes, voire architectes, qui se sont vraiment inspirés de ces structures très solides et en même temps très aérées. C'est de la dentelle, hein. C'est d'une beauté infinie.
Oui, c'est tout l'art nouveau, en fait. Ouais. L'art nouveau copie. Et par exemple, René Binet, qui avait construit la porte monumentale de l'exposition universelle de Paris, a dit qu'il avait copié telle espèce de radiolaire. Et d'ailleurs, personnellement, je suis spécialiste de radiolaire et pas d'architecte, mais heureusement qu'il l'a dit parce que je n'aurais pas reconnu.
Vous auriez pas, oui, ça a été quand même un peu sublimé par l'artiste.
Mais beaucoup d'autres copient. Ouais. La sphère qui est à
l'univers. La géode.
La géode, c'est tout à fait la forme d'un radiolaire avec la même structure, avec des pentagones qui alternent avec des hexagones. C'est la même logique. En fait, ce sont les mêmes lois de physique ou chimie fondamentale que l'on retrouve, et on le retrouve très simplement chez ces organismes-là. Parce que, ben, ils y sont directement sensibles. Simplement, c'est beaucoup varié parce que, ben, ces variations sur un thème, il faut répondre à des tensions superficielles moindres. En fait, si on regarde la construction des bulles de savon, l'agencement des bulles de savon, on retrouve les grands principes chez les microfossiles.
Vous parlez aussi de la Sagrada Familia de Gaudi en Espagne, célèbre cathédrale encore en cours de construction.
Lui-même dit qu'il a copié les radiolaires. Ouais. Et quand on regarde les ouvertures, les rosaces qui ont un peu une forme de triangle, en fait, c'est tout à fait l'architecture que l'on trouve chez les radiolaires.
Ouais. Alors, ça m'intéresse de savoir, de demander à notre deuxième invité, Frédéric Foujat, qui est réalisateur, qui s'intéresse à tous ces sujets scientifiques. On va découvrir votre docu-fiction tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais est-ce que quand vous entendez avec une telle passion ce sujet des microfossiles, vous vous dites « ça pourrait être l'objet de mon prochain documentaire ».
C'est un sujet magnifique. Hein. C'est vrai qu'ils sont beaux, ces fossiles. J'ai vu les planches là du livre de Patrick. C'est magnifique. Et se dire que en fait la nature a mis des millions d'années à inventer des structures économes, des structures qui gèrent l'énergie au mieux. On se dit que on peut s'en inspirer évidemment pour construire nos bâtiments, pour dépenser moins d'énergie, pour un monde un peu plus équilibré. Donc là, il y a pour moi, cinématographe, il y a un sujet. Comment s'inspirer de cette évolution millénaire pour raconter une grande histoire.
Patrick de Wever vient de sortir les contrats de sa mallette. Je pense qu'il est pour être le conseiller scientifique du documentaire.
Je fais un signe pour dire, je signe, je suis prêt à travailler avec vous. Les contrats, ça, je ne sais pas faire.
Voilà, l'affaire est dans le sac. Je rappelle le titre de votre livre, Patrick de Wever. Merveilleux fossile, bâtisseur, chronomètre, architecte, avec une préface d'Hubert Reeves. Et c'est chez Biotope, édition coéditée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Dans un instant, nous partons à la rencontre de la faune sauvage qui est en train de gagner du terrain à Paris. Renards, castors, faucons pèlerins, où se cachent-ils ? C'est ce que nous allons voir dans la suite du Club des Têtes au Carré sur France Inter.
Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur parcours. Mon corps se grippe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt ? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. pour mon corps et ta tône, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour, tes yeux se ferment sur ses atomes. Mon corps disparaît, mon amour, je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui, le tien reste sourd. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et sans détour, sa vie me ranime, mon amour. Je cours au dehors, revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour. Je cours au dehors, revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour. J'appelle tes mains à leur part. Quand mon corps se grippe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt. Mon corps est à toi. Mon cœur s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon cœur expire, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon cœur est à tonne, mon amour, et je sens poindre un non-retour.
Olivia Ruiz, Mon corps, mon amour sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Le club avec le géologue Patrick De Wever et le réalisateur Frédéric Foujat, dont le film La plus belle ville du monde sera diffusé le 1er janvier prochain sur M6 à 21h. Un film, Frédéric Foujat, qui nous montre qu'après avoir été chassé de la ville depuis des siècles, la faune sauvage est de retour.
Effectivement, elle revient. En fait, elle est revenue déjà depuis le XVIIe siècle. Elle avait disparu au XVIIe siècle parce qu'il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de végétation, donc il n'y avait plus de vie finalement dans la cité. On l'avait couverte de ciment, cette cité qui d'ailleurs, si je comprends bien ce que dit Patrick, est aussi bâtie sur un tas de...
Hein, Patrick De Wever, vous confirmez, il acquiesce.
Parce que la cité est bâtie donc sur du calcaire, mais par-dessus il y avait un gigantesque marais. Quand les premiers hommes arrivent ici, c'est de la boue, c'est un marais, d'ailleurs on a gardé le nom marais, il y avait une colline, et cette boue a donné à Paris son premier nom, Lutèce, parce que lutum en latin veut dire la boue. Donc les Romains avaient les pieds dans la boue. Donc en fait, la nature, tout ça pour revenir à la nature qui petit à petit s'éloigne de la capitale, parce que les hommes n'en veulent pas, parce que les hommes la chassent, les arbres ne peuvent pas pousser parce qu'ils sont piétinés ou mangés par les chevaux, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Et elle revient par l'intermédiaire de Catherine de Médicis, qui construit un jardin en plein Paris. Et c'est ça, c'est au XVIIe siècle. Petit à petit, elle va revenir avec les bois, bois de Boulogne, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a un tournant, il y a une réconciliation. C'est-à-dire que non seulement elle revient grâce aux insecticides qui sont bannis, mais aussi un peu par, parce qu'on l'appelle, ouais. On est content qu'elle revienne, ouais. La nature.
On en a besoin. On est en train de se rendre compte que ça nous fait du bien. Alors, Alors même des choses qu'on ne voit pas forcément, parce que vous parlez de castors dans le canal Saint-Martin. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment au cœur de Paris des animaux qu'on ne s'attend pas à trouver là.
Les myocastors, donc les cousins des castors, ouais. Viennent, migrent de la campagne, où ils sont pas forcément bienvenus partout, hein. Ils migrent par les fleuves, par la Seine et par le canal, par la rivière Ourcq. Et ils viennent s'installer effectivement dans Paris. Ils aiment bien être sur les berges. Il y en a beaucoup dans les bois, hein. Bois de Boulogne, ouais. Il y en a beaucoup. Mais si vous faites un tour sur la Seine, vous allez en voir. Hein, ouais. Il y en a pas mal.
Et puis en haut de la Tour Eiffel, des faucons pèlerins avec là des images superbes de ces oiseaux, hein, qui dominent Paris, qui attendent patiemment leur proie. Ils ont une vision incroyable. Ils ont besoin d'être en hauteur. C'est pour ça qu'ils s'y sont pas trompés. Ils ont choisi la Tour Eiffel.
Exactement. Dans la nature. Les faucons pèlerins, qui ne sont pas des très gros rapaces, vivent en haut des falaises. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de prendre de la vitesse pour capturer leur proie. Et d'ailleurs, ils prennent une sacrée vitesse, ils arrivent jusqu'à 350 km/h. C'est l'oiseau le plus rapide du monde. Et donc, dans la nature, ils ont des falaises. Ils sont revenus à Paris il n'y a pas très longtemps. Et ils ont choisi, bien entendu, les endroits en hauteur. Et quoi de mieux que le sommet de la Tour Eiffel pour prendre un plongeon et arriver sur un pigeon qui se retrouve au-dessus de la Seine. Donc on a vu des faucons capturer des pigeons et des mouettes. Ouais. Donc les mouettes sont aussi grosses que lui. Hein. Et en plongeant de la Tour Eiffel.
Ouais, des scènes de chasse incroyables en plein Paris. Un autre animal que l'on ne s'attend pas forcément à croiser dans la capitale.
Un animal mythique de nos campagnes a réussi à se faufiler dans la ville. Quand les hommes rentrent chez eux, la vie surprenante des renards commence. Ils sont aujourd'hui une petite centaine. Cette renarde a mis bas il y a quelques semaines. Deux renardeaux issus d'un paternel rencontré dans une gare. Mais ce gredin n'avait pas le goût pour la vie de famille et Renarde est devenue une mère célibataire. Elle s'est parfaitement adaptée à la vie urbaine. Elle s'est entrée dans Paris au crépuscule et en ressortir à l'aube avec quelques provisions. Grâce au tunnel désaffecté, elle a accès à tout Paris. Ces renardeaux ne sont jamais sortis de leur tanière. C'est leur monde et il est habité par nos restes.
Extrait de votre film, Frédéric Fougas, La plus belle ville du monde, qui sera donc diffusé le 1er janvier prochain sur M6 à 21h. Là encore, ces renards. Alors, ils vivent à Vincennes, mais vous dites aussi qu'on en trouve au Père-Lachaise. Ils sont une centaine à Paris.
Oui, alors ça, c'est un phénomène assez récent. Une centaine de renards, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Hein, parce qu'il faut, pour arriver au centre de Paris, il faut quand même traverser la périphérie urbaine. Là, c'est très dense. Donc, on ne sait pas bien comment ils sont arrivés. Ils se sont installés, a priori, dans le bois de Vincennes au début. Ils ont creusé leur tanière là. Mais ils réussissent par la petite ceinture à naviguer dans toute la ville. Donc ils vont chercher des rongeurs, ils vont chercher à manger évidemment. Ils se nourrissent aussi un peu de poubelles quand ils trouvent pas les rongeurs qu'il faut. Mais ils naviguent dans tout Paris, donc on peut en voir. On en a vu au Jardin des Plantes, là où Patrick travaille.
Patrick de Wever, vous nous disiez, quand on a un peu discuté des sujets de cette émission, vous nous disiez, par le Jardin des Plantes qui entoure le Muséum National d'Histoire Naturelle.
Oui, c'était l'hiver passé. À ma connaissance, on n'a pas vu les renards, mais on a vu les traces dans la neige. Ouais. Et tout le monde était surpris parce que personne ne les avait jamais vus. Mais donc ils y sont.
Ça doit faire plaisir à vos collègues du Muséum National d'Histoire Naturelle, ce retour de la vie sauvage dans la capitale.
Oui, bien sûr, parce que on a aujourd'hui tendance à subdiviser les sciences en disciplines imperméables, alors que la nature, c'est un tout. De l'infiniment petit à l'infiniment grand et à toutes les échelles de temps et d'espace. Et généralement, quand on parle de nature et d'écologie plus généralement, on fait une énorme erreur, c'est justement que ce n'est d'étudier qu'une petite partie de cette nature. Et à ce titre-là, on rencontre parfois des grosses bêtises, parce qu'on oublie de remettre dans le contexte.
C'est tout un écosystème qui est en train de se recréer dans la capitale, avec des surprises. Vous parlez aussi des abeilles dans votre film, des abeilles qui se portent maintenant mieux dans les villes, et notamment à Paris, que dans les campagnes.
Mais oui, parce qu'elles fuient les endroits où il y a des pesticides. Elles n'aiment pas du tout ça, donc elles arrivent par essaim, de 15 à 30 000. elles sont nombreuses, hein, c'est au mois de mai en général, avril-mai, et on sait qu'elles arrivent, donc on est prévenu. Il y a Nicolas Géant qui vient les capturer à la main et qui les installe dans des ruches pour qu'elles soient un peu en sécurité. Ce qui est étonnant, c'est que ces abeilles qui arrivent à Paris fabriquent des larves, et ces larves sont en meilleure santé physique que celle des campagnes. Donc on reprend les abeilles de Paris pour les remettre à la campagne. C'est le comble.
Il y a un côté un peu monde à l'envers, hein, effectivement. Peu, ouais. Comment vous avez travaillé pour le tournage de ce film? On imagine ça difficile. Parce que quand on sait qu'il y a une centaine de renards à Paris, on a beau le savoir, encore faut-il réussir à filmer tout ça. Alors comment vous vous y êtes pris?
Évidemment, il y a pas mal de gens dans les parcs et jardins qui travaillent sur la nature à Paris, à la direction de l'environnement, de la mairie de Paris, au muséum. Donc il y a des gens qui observent et qui soignent la nature. Donc ils nous ont donné de nombreux renseignements. Tiens, là il y a un renard, une renarde là qui, elle vient de mettre bas probablement. Donc on a pu savoir localiser des individus et reconstituer un petit peu une partie de leur vie. Donc on a pu filmer de cette manière-là, mais aussi on a beaucoup utilisé des doublures pour être très proche des animaux, pour pouvoir raconter leur histoire vraiment. Les boucs qu'on n'arrivait pas à filmer en captation pure, eh bien on utilisait des doublures qui on pouvait faire des gros plans et des actions spécifiques pour raconter l'histoire.
Donc voilà. Vous avez aussi utilisé des animaux apprivoisés ou en tout cas...
Oui, en tout cas habitués à l'homme.
Voilà, captifs, ouais. Pour leur faire jouer certaines scènes du film.
Pour pouvoir vous raconter des belles histoires.
Ah oui, c'est vraiment des histoires très personnalisées. Hein. On suit un peu la vie de ces oies sauvages aussi qui traversent. Et parce qu'il y en a certains qui s'installent, d'autres qui sont juste de passage. C'est notamment le cas des oiseaux migrateurs qui passent par la capitale.
Exactement.
Tout ça est à découvrir dans La plus belle ville du monde. Ce sera diffusé le 1er janvier prochain sur M6 à 21h. Allez, dans un instant, on parle musique dans La tête au carré à l'occasion de la parution d'un ouvrage qui explique aux plus jeunes le son, les instruments et l'histoire de la musique dans toute sa diversité.
Oh, the weather outside is frightful and the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some coal for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Stomping, and I brought some corn for popping.
C'était Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow de Nancy Wilson sur France Inter dans le club des Têtes au Carré. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Mathias Alléon.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez triomphant, je n'ai pas assez orgueilleux, de l'orgueil, mon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Au 17. Hop. Alors.
C'était Louis de Funès en chef d'orchestre quelque peu énervé dans la grande vadrouille. Bonjour Nicolas Lafitte.
Bonjour.
Vous publiez le livre Musique pas bête chez Bayard Jeunesse, une coédition France Musique. Et alors ce livre s'adresse aux jeunes mélomanes qui voudraient en savoir plus sur la musique, les compositeurs, les instruments. Ce sont des questions envoyées par des enfants auxquelles vous répondez. Il y a, comme souvent avec les enfants, des questions un peu vertigineuses du type « À quoi sert la musique ?» Qu'est-ce qu'on répond à ça ?
À quoi sert la musique ? C'est une question difficile, hein ? À quoi sert la musique ? Ou alors, qui a inventé la musique ? Vraiment, c'est un petit peu compliqué. À quoi sert la musique ? Moi, quand on me pose cette question, ou des enfants me posent cette question, j'ai tout de suite envie de parler de partage, en fait. Je pense que la musique, ça sert à partager, ça sert à apprendre à connaître l'autre, ça sert à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à d'autres cultures. C'est plutôt beau, en fait. À quoi ça sert la musique ?
Alors, 44 questions auxquelles vous répondez, elles ont donc été posées par des enfants sur le répondeur d'une émission de France Musique, Classico Dingo. Alors, exemple de questions, à quoi sert le chef d'orchestre ? Pourquoi n'a-t-on pas tous la même voix ? Alors, il y en a pour tous les styles musicaux, hein, classique, rock, jazz, rap, avec toujours effectivement cette question des origines qui revient, hein, comment est né le jazz, d'où vient le rap ? Ce sont des questions qui, vous, à titre personnel, vous intéresse la naissance de ces styles musicaux ?
La naissance des styles musicaux m'intéresse effectivement. Ce qui est passionnant avec la musique, avec l'art en général, c'est la découverte d'une culture, mais c'est aussi l'évolution. Quand on parle du jazz, ou quand on parle du rock, ou quand on parle de la musique classique, quand on dit musique classique, généralement on voit un truc un peu poussiéreux, mais non, elle évolue encore aujourd'hui. Le jazz évolue encore aujourd'hui. Il y a le jazz rock, du jazz électro, on entend du jazz qui est bien loin du jazz des débuts et des La Fitzgerald, mais je trouve ça assez fascinant, et c'est pareil avec la musique classique. On utilise aujourd'hui certains compositeurs de musique savante, donc de musique dite classique, utiliser les ordinateurs par exemple. On est bien dans notre temps quand on parle de musique.
Mmh. Donc une part de technologie, de science aussi, hein, de la musicologie qui vient petit à petit irriguer cet art.
Ah bah oui, la technologie est vraiment présente, et puis je pense que le rapport entre la science et la musique, entre les mathématiques et la musique est très très proche. Quand on parle d'une note, on parle d'une hauteur, on parle d'une puissance, on parle d'onde aussi. D'ailleurs, c'était une question aussi, on l'a pas mise dans le livre, celle-ci, mais elle revenait assez souvent. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour faire de la musique ?
Ouais.
Alors, je crois pas qu'il y ait besoin d'être bon en maths pour faire de la musique, mais c'est vrai que ça aide, parce que quand on parle de rythme, bien, on parle de valeur, on parle de proportion, on parle de division.
Vous parlez aussi des instruments de musique, avec toujours ces questions d'enfants qui ont l'art de poser la question à laquelle on a tous envie de connaître la réponse. Le triangle est-il vraiment un instrument de musique ?
C'est génial, non ? On s'est tous posé cette question.
C'est vrai.
Est-ce que le triangle est un instrument de musique réellement ? Mais oui, c'est un instrument de musique qui fait partie de la famille des percussions. Alors en fait, quand on est percussionniste, il faut savoir jouer de nombreux instruments. C'est un sacré apprentissage, en fait, d'être percussionniste. Parce que vous devez savoir faire des claviers, c'est-à-dire les xylophones ou les vibraphones. Il faut savoir jouer aussi des pots avec les grosses caisses, les timbales. Et puis après, il y a ces drôles d'instruments, les idiophones, dont fait partie le triangle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le métal lui-même qui résonne, en fait. Et c'est lui qui provoque le son, qui provoque la note. C'est pour ça qu'on appelle ça un idiophone. Un klaxon, par exemple, dont on se sert dans la musique, par exemple, dans Un Américain à Paris, on se sert du klaxon. Le percussionniste doit pouvoir savoir jouer du klaxon aussi, des castagnettes, des cymbales, voilà. Mais c'est vraiment un instrument de musique.
Un instrument de musique à part entière, au même titre que tous les idiophones, et ce mot existe aussi, des idiophones.
Ce mot existe, oui.
Faut-il, là encore, une question, faut-il des grosses joues pour jouer des cuivres. C'est vrai qu'on a tous ces images de trompettistes comme Miles Davis, par exemple, avec des joues énormes. Est-ce qu'il les avait avant ou est-ce que c'est de jouer de cet instrument qui les a un peu déformés?
Je pense qu'il les avait avant, et je connais d'ailleurs de nombreux trompettistes qui n'ont pas de grosses joues. Ah. Donc je pense que c'est pas une généralité. En revanche, ce qui est impressionnant chez les trompettistes, c'est leurs lèvres. C'est-à-dire que finalement, ils ont les lèvres hyper musclées parce que ce qui crée le son, c'est vraiment la vibration de leurs lèvres avec l'embouchure. Il n'y a pas l'anche, comme sur une clarinette par exemple, qui va vibrer, ce petit bout de bois qui va vibrer, qui va créer un son. Pas du tout, c'est vraiment en faisant comme ça qu'ils vont créer un son.
Alors aussi une question, et là je pense que tous les enfants se la sont posés, pourquoi fait-on de la flûte à bec à l'école? C'est vrai que cet instrument de musique qui semble lui aussi appartenir un peu à une classe d'instruments moins noble, pourquoi c'est de cet instrument-là qu'on nous fait jouer à l'école?
Alors il paraît qu'on en fait de moins en moins à l'école, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. J'anime pas mal d'ateliers avec des jeunes et ils sont contents de me dire qu'ils en font de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est facile. Tout simplement, il suffit de souffler dedans, de boucher les trous, et logiquement ça marche et on fait de la musique. Mais c'était surtout une bonne manière de parler de la flûte, qui est un instrument absolument incroyable. Ouais. C'est un des plus vieux instruments qu'on ait retrouvé. On a retrouvé des flûtes préhistoriques qui ont plus de 40 000 ans. On a retrouvé des flûtes en os de vautour, avec des défenses de mammouth. On a retrouvé... Mmh. Enfin, c'est assez hallucinant. Et ça nous pose aussi la question de savoir à quoi sert la musique. Effectivement, pourquoi l'homme préhistorique jouait de la musique? Est-ce qu'il faisait de la musique pour les mêmes raisons que nous on fait de la musique aujourd'hui? J'en sais rien. En revanche, il y a quand même un lien entre le spirituel et la musique qui est très très fort. C'est-à-dire que la musique est là comme média, comme moyen de communication entre nous sur Terre et le ciel. Alors, on met ce qu'on veut dans le ciel, un dieu, des dieux, des étoiles, ce que vous voulez, mais c'est quand même un moyen de s'élever. Après, un mec comme Jean-Sébastien Bach, écrivait toute sa musique pour Dieu, par exemple. Ouais.
Sur la flûte aussi, on apprend que la flûte traversière, en fait, elle est en métal que depuis très récemment, depuis le 19e siècle.
Oui, depuis le 19e siècle.
Là encore, on voit l'évolution des instruments, c'est en perpétuelle évolution.
C'est en perpétuelle évolution, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et j'espère bien d'ailleurs. On voit, je pense notamment à Thomas Leleux, qui est un tubiste, qui joue dans un orchestre classique. Et bien maintenant, il se sert de pédales, wah-wah et de pédales re-re pour mixer le son de son tuba. Il est seul en scène comme ça. C'est une manière de faire évoluer l'instrument. Pour la flûte traversière, c'est assez génial. La flûte traversière, en fait, elle était en bois. On pense qu'elle est née en Asie, à la base, la flûte traversière, 9 siècles avant Jésus-Christ. En Europe, on l'utilise beaucoup, notamment dans la musique de la Renaissance et dans la musique baroque. Et puis, il y a un homme, Théobald Böhm, qui est fils d'orfèvre, et donc qui connaît très bien les métaux précieux, qui décide de rajouter des clés, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse faire plus de notes, qui décide de changer un petit peu la forme de la flûte, et puis qui décide de s'en faire une en argent. Et on se rend compte que le son est beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant. Au début, au conservatoire, on ne voulait surtout pas enseigner cette flûte en métal, et en fait, très vite, c'est devenu à la mode, et il y a des grands compositeurs comme Debussy qui se sont appropriés cet instrument, et c'est devenu... Une chouchoute.
Ouais. Alors il y a les musiciens, les compositeurs et puis aussi les chanteurs, parmi eux, les chanteurs d'opéra. Extrait de Nessun Dorma de Puccini par Carreras Domingo et Pavarotti en concert, qui me permet de reposer cette question qu'un des enfants a laissée sur votre répondeur. Pourquoi les chanteurs lyriques chantent-ils bizarrement?
Eh bien, ils chantent bizarrement parce qu'ils apprennent à chanter comme ça. En fait, il faut bien s'imaginer, ce que beaucoup de monde ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de micro à l'opéra. À l'Opéra Bastille à Paris, par exemple, il y a 2745 places, quelque chose comme ça. Il faut que le chanteur qui est sur scène passe au-dessus de l'orchestre qui est dans la fosse et puisse chanter, parler, chanter dans le creux de l'oreille du dernier spectateur là-bas qui est au 2745e siège. Mmh. Ça demande une technique bien particulière. En fait, la voix, notre voix, si on entendait le son de ce qui sort de nos cordes vocales, on n'entendrait pas grand-chose en fait, ça fait pas énormément de bruit. En fait, le son est amplifié dans notre bouche, dans notre nez, grâce à des résonateurs. C'est des amplis en fait, on a des amplis dans la bouche et dans le nez. Et les chanteurs lyriques apprennent à s'en servir encore plus que nous qui allons parler, ou les chanteurs de pop ou de variété qui ont des micros. Et en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils chantent bizarrement.
Ouais. Et alors, ça n'empêche pas de transmettre de l'émotion, comme un peu toutes les musiques d'ailleurs. Et parmi les compositeurs qui ont su émouvoir leur auditoire, il y a Schubert. Extrait de La jeune fille et la mort de Schubert, avec cette question là aussi tellement savoureuse qu'un enfant vous a adressée. Est-ce que Schubert écrivait de la musique rien que pour nous faire pleurer?
C'est pas mignon ça, franchement. Bon, je pense que c'est quand même un auditeur qui connaît un peu la musique quand même, parce que il connaît Schubert. Pour lui, il associe Schubert à de la musique triste. C'est absolument adorable. Alors Schubert n'a pas fait que de la musique triste quand même. Il y a aussi de la musique joyeuse. Mais c'est un romantique, Schubert. Il s'intéresse à la vie, la mort, l'amour. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre? Et c'est vrai que de nombreuses compositions de Schubert, eh bien, sont empreintes de tous ces questionnements en fait. Et il y a ce fameux cycle, le voyage d'hiver, qui est vraiment la meilleure des représentations du romantisme chez Schubert, c'est-à-dire qu'on est face à la nature. L'homme est seul face à la nature et il s'interroge sur sa vie, sur ce qu'il fait là. Et le voyage d'hiver, c'est son dernier voyage et c'est un voyage vers la mort, en fait. Mmh. C'est pas très gai.
Non, pas très gai. Merci Nicolas Lafitte. Le livre est, lui, très rigolo, très amusant, joliment illustré par Pascal Lemaître qui vient ajouter à toutes ces informations que vous donnez, ces dessins humoristiques. Ça s'intitule « Musique pas bête », c'est édité chez Bayard Jeunesse en coédition avec France Musique. Merci à vous.
Merci.